Comment se hedger directement en bourse sur le prix de l'énergie? Comment se couvrir directement en bourse sur le prix du pétrole et le prix du gaz naturel? Je passe tout en revue. Les contrats futurs, les options, les ETF, les CFD, les ETN, les actions du secteur pétrolier, les compagnies pétrolières majeures, mais aussi des acteurs un peu plus indépendants et plus centré sur l'extraction et la revente de pétrole. Je commence bien sûr par un point technique immédiat sur les deux baromètres du risque du moment, le prix du pétrole en bourse et le prix du gaz naturel, chers amis. Point complet technique sur le sujet du moment, la meilleure des protections en bourse face aux risques géopolitiques actuels ou futurs d'ailleurs. Comment se hedger directement en bourse sur le prix du pétrole et le prix du gaz? C'est parti.
Cette émission vous est présentée par Swissquote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. C'est parti les amis, comment se hedger directement sur le prix du gaz et du pétrole? En bourse, je déclare la session ouverte. Le plan s'affiche sous vos yeux. Cinq grandes parties. Nous commençons par l'analyse technique immédiate du prix du pétrole et du gaz naturel en bourse avec le positionnement institutionnel, les choix boursiers de couverture directe sur le prix de l'énergie, actions pétrolières, attention aux majors intégrés versus les producteurs indépendants, exemple concret d'instrument de couverture, exemple concret d'une option call sur le prix du pétrole. Et je commence par l'analyse technique et le positionnement institutionnel sur le pétrole et le gaz. Alors, en ce qui concerne le positionnement institutionnel, j'utilise le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Et vous allez voir, je vais vous remontrer, bon, c'est facile après coup, mais enfin, quoi que je l'avais montré, mais peu importe. La position nette, donc la différence entre les achats et les ventes sur les contrats à terme, options plus contrats futurs sur le pétrole, était revenue pile poil, mi-février, sur son plus bas de 2008. Et puis ça rebondit dessus, comme ça, complètement incroyable. Est-ce que ça allait rebondir dessus s'il n'y avait pas eu les attaques? Dans tous les cas, il y avait déjà une tension au Moyen-Orient. Mais bon, bref, en tout cas, c'est comme ça. Donc, d'un point de vue technique, on reprend un peu la cartographie. L'idée, c'est de refaire le point sur les signaux techniques, de bien comprendre quand est-ce que le pétrole est une menace, c'est-à-dire quand est-ce qu'il représente une alerte rouge pour le rebond de l'inflation, quand est-ce que, au-dessus d'un certain prix, il y a un choc inflationniste. Encore faut-il s'y maintenir. Il y a bien sûr dans tout ce dont là nous allons parler, je vous remonte les principaux niveaux techniques, mais la principale incertitude, c'est le facteur temps. Principale incertitude, c'est le facteur temps. Combien de temps le marché va passer au-dessus de certains seuils? Donc déjà, première chose, et l'importance, vous allez voir, de la clôture technique mensuelle. Première zone, ça je vous les remonte, je vous ai déjà montré ça depuis fin février. La zone d'alerte rouge au-dessus de 80 $. Alors, pourquoi la zone d'alerte rouge au-dessus de 80 $? Parce que toute l'année 2025 a été passée sous 80 $, donc c'est tout con. Lorsque vous allez faire le taux d'inflation du pétrole, la contribution du pétrole, là, je parle du brut, à l'inflation, tout ce qu'au-dessus de 80 $, il y a un delta positif, donc un rebond de l'inflation. Et au-dessus de 92-94, je parle de choc inflationniste, parce que là, le delta, on parle d'une hausse qui est supérieure à 30% de ce que fut la moyenne des prix en 2025, et oui, forcément, cela maintient au moins l'inflation nominale. L'inflation sous-jacente, ça se discute parce que ce sont surtout les services, mais ça maintient l'inflation nominale, un point de pourcentage au-dessus minimum de la cible de la Fed. Ça, c'est si on s'y maintient plusieurs mois. Je vous ai réexpliqué la semaine dernière que si le prix du pétrole se maintient dans cette zone-là un mois, il ne se passera rien. On commence à s'inquiéter à partir de 2-3 mois. Au-delà de 3 mois, vous n'échappez pas au rebond de l'inflation. Alors bien sûr, là c'est le choc inflationniste. Le mode hors de contrôle, c'est un prix du pétrole au-delà des 130 $ qui reviendrait tester son record ici de 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, ce qu'on estime en fait, c'est que la guerre en Ukraine dans les premières semaines a créé une contrainte d'offre de 2 à 2,5 millions de barils. Là, l'Agence internationale de l'énergie a expliqué qu'au stade actuel, par rapport au blocage du détroit d'Ormuz, on est sur 7 à 8 millions de barils qui passent plus. Alors, est-ce que ça va repasser pour l'Inde? Est-ce que ça va repasser pour la Chine? Vous voyez, ça va être moins au final. Mais quand bien même ce serait moins, on est au-dessus de la contrainte d'offre liée au déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc logiquement, on devrait déjà être au-dessus, mais on n'y est pas. Voilà. Bon, en tout cas, voilà les seuils. Une vraie zone d'apaisement, c'est repasser sous les 80 dollars. Repasser sous les 80 dollars, c'est qu'il y a une super bonne nouvelle géopolitique, enfin bonne nouvelle, façon de parler, comprenez ce que je veux dire, et là du coup, il n'y aura pas de choc inflationniste. La clôture mensuelle sera vraiment importante, je vais vous montrer la clôture mensuelle sur... Donc j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku maintenant, donc effectivement, en weekly, on a donné un signal, hein. On a quitté par le haut tout un train de baissier en place depuis fin 2022, et en mensuel, regardez, en Ishimoku, ça va être intéressant parce que si la clôture mensuelle se fait au-dessus des 90, on donne un vrai signal bullish en Ishimoku mensuel. Et là, ça, les choses pourraient être compliquées. Donc, en fait, si vous voulez, ce que nous dit l'analyse technique, c'est que si le prix du pétrole se maintient dans les zones hautes à la fin du mois, et qu'on est quand même parti pour souffrir un certain temps. Ça, ce sont les enseignements de l'analyse technique. Alors, quelle est la probabilité d'un cessez-le-feu d'ici la fin du mois de mars? Ça évolue tous les jours. Voilà. Mais en tout cas, techniquement parlant, retenez ces principaux niveaux pour la cartographie technique. Il y aurait une zone d'entre-deux, hein, une zone d'entre-deux, qui peut être réaliste même si le conflit s'arrête, entre 80 et 90 dollars. Oui, ça pousse un peu l'inflation nominale, mais ça resterait sous contrôle. Et l'inflation sous-jacente pourrait elle continuer de baisser, parce qu'il y a d'autres contributions. En ce qui concerne le prix du pétrole, du gaz naturel, le contrat à surveiller, c'est le contrat du gaz dit européen. Le contrat TTF à la bourse d'Amsterdam, sur lequel d'ailleurs vous avez des options, des contrats futurs, j'y viens, j'arrive dans la vidéo avec tout le détail de ce que vous pouvez faire directement sur le pétrole et sur le gaz. Il n'y a pas d'alerte rouge technique tant qu'on ne dépasse pas ce niveau des 56-57. Voilà. Donc quand j'enregistre la vidéo, on est à 50. Donc là, sur le gaz européen, retenez ça. 56-57. Si on break à la hausse, on va aller dans les mêmes signaux ici que le déclenchement de la guerre en Ukraine, et là, ça va être moche. Donc, voilà, là, techniquement parlant, c'est sous contrôle, sous 56-57. Alors que sur le pétrole, donc, nous sommes déjà dans une zone de choc inflationniste, en termes de prix, pas encore en termes de temps. Nous sommes dans la zone de prix de choc inflationniste, si on s'y maintient, plus de 2-3 mois. Voilà. Et maintenant, on passe en vue toutes les façons de s'exposer directement au prix du pétrole et du gaz en bourse. C'est parti les amis, nous regardons ensemble tous les choix boursiers de couverture directe en bourse sur le prix du pétrole et le prix du gaz. J'ai envie de dire, peu importe l'évolution à très court terme de la situation géopolitique, la géopolitique restera un sujet aujourd'hui, demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, toute la décennie et au-delà. Donc, il faut savoir comment. Vous savez, dans cette affaire, la meilleure des stratégies, depuis le début, dans les 10 jours qui ont suivi le début des opérations, quelle a été la meilleure stratégie de couverture du portefeuille? Qui est passé de 80 dollars à 120 dollars? Bon. C'est pas l'or. Non, lui, il avait déjà pompé. Ok, donc, abracadabra, les choix boursiers de couverture directe sur le prix. Qu'est-ce qu'il est beau, mon slide. Je me lance des fleurs. Non, j'adore tout synthétiser, j'adore créer des tableaux. Je suis Monsieur Tableau. D'ailleurs, on va m'appeler Monsieur Tableau, je vais créer ma chaîne YouTube parallèle à Swissquote. On sera Monsieur Tableau. Bon, enfin, tout ça est perfectible. Donc, je vous dis tout ce qu'il y a. Je vous montre, pardon, tout ce qu'il y a. Et moi, je vous dis ensuite, là où il y a le plus, à la fois de sécurité ou plus de levier. Plus de levier, plus de risque. Moins de levier, plus de sécurité, moins d'espérance de gain. Vous me suivez. Vous avez plusieurs instruments possibles. Vous avez tout d'abord les contrats futurs. Ensuite, les options. Donc, contrat futur, vous allez acheter un contrat futur sur le pétrole ou sur le gaz. Donc, vous avez de l'effet de levier, vous avez une échéance, et c'est du trading de marge. Vous avez déjà tradé des contrats futurs, vous avez peut-être déjà tradé des CFD, je vais en parler, les CFD. C'est du trading de marge, d'accord? Une partie du capital est immobilisée sur votre compte, vous vous exposez à une valeur notionnelle qui est bien supérieure à cette partie immobilisée. Attention, si le marché décale dans l'autre sens et que la perte latente dépasse le capital immobilisé, c'est l'appel de marge. Si la vol est trop forte que le broker n'a pas le temps de vous déboucler, derrière, c'est le solde débiteur. Ça, c'est la limite des contrats futurs, même si là, c'est quand même peu probable. Enfin, rappelez-vous, le pétrole négatif en avril 2020, sur l'échéance du contrat futur d'avril 2020. Je sais plus si c'était avril ou mai 2020. Rappelez-vous le pétrole négatif. Il fallait pas être à l'achat. Il fallait pas être à l'achat sur les contrats à terme. C'est le risque des contrats futurs. Ce ne sera pas le risque avec les options, vous allez voir. Donc, d'abord, les contrats futurs, donc sur le WTI, sur le Brent, les contrats futurs sur le gaz, à la bourse de Chicago ou à Intercontinental Exchange, ICE, c'est sur la bourse d'Amsterdam. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai fait à l'instant l'analyse technique dessus. Le contrat de gaz européen qui fait référence pour l'Europe, c'est ce qu'on appelle le TTF. Le TTF. Je sais même plus ce que ça veut dire comme acronyme. Ça m'échappe. On s'en fout. C'est le contrat qui fait référence. Sur le TTF, vous avez des ETF, vous avez donc des contrats futurs, vous avez des contrats d'options. Donc le contrat futur, c'est bien, mais c'est volatile, il y a du levier. Il faut maîtriser le trading de marge. Alors, si vous maîtrisez pas le trading de marge et le principe de l'appel de marge, vous pouvez appeler votre conseiller, il vous explique. Vous faites des essais, mais si c'est compliqué pour vous, oubliez. Alors ensuite, les options. Bah, les options, c'est probablement ce qui peut vous faire fuir à première vue. Alors, j'y comprends rien, les options, les grecs, le theta, le machin, la valeur temps, le delta, je comprends rien, le strike. Mais c'est pourtant moins risqué que les contrats futurs. À mon humble avis, pourquoi? Lorsque vous allez acheter une option call sur le pétrole ou une option call sur le gaz, ça a un coût. Ce coût, c'est ce qu'on appelle la prime à payer. Votre perte est limitée au montant de la prime. Vous achetez des options call sur le pétrole, strike 150, je dis n'importe quoi, $150. La prime, est, je dis n'importe quoi aussi. Hein. Tout à l'heure, on voit un exemple concret. La prime est de $500. Dans tous les mondes possibles, vous ne perdrez jamais plus que 500. Avec les options call, dans ce cas de figure, sur le pétrole et sur le gaz, vous connaissez à l'avance votre perte maximale. Ce n'est pas le cas avec les contrats futurs. Effet de slippage, le broker ne vous déboucle pas avant l'appel de marge, boum, solde débiteur. Ça n'arrivera jamais, retenez bien, ça n'arrivera jamais avec les options. Donc, moi j'ai tout de suite une préférence pour une option call sur le pétrole, une option call sur le gaz. Attendez, je parle pas de la tendance, là c'est théorique. Hein. Je dis pas que le pétrole et le gaz vont continuer de monter et tout, ça on s'en fout, on vient de parler d'analyse technique. Et puis peu importe le court terme, tout ça sera très valable pour les prochains mois, les prochaines années. Donc moi déjà je vous dis, entre les contrats futurs et les options, allez sur les options. En plus c'est passionnant, il y a plein de choix possibles, des strikes. Alors, après on me dit, oui les options j'y comprends rien, les grecs, etc. Bon, vous concentrez sur le strike, vous concentrez sur la valeur temps. Voilà. Alors j'ai un exemple concret qui arrive tout à l'heure. Donc, pour ce qui est du gaz européen, n'oubliez jamais, c'est le contrat TTF, sur lequel vous avez des options, c'est côté Amsterdam, et des contrats futurs. Alors ensuite, la solution la plus simple, c'est les ETF. Bah là, l'ETF, c'est simple, il réplique le sous-jacent, bête et méchant. Liquidité très élevée, il suit le prix du pétrole. Par contre, vous n'aurez pas... Alors, il peut y avoir des ETF qui font du x2x4, mais vous n'aurez pas l'effet de... Avec les options, le levier, ça peut être de 50, 100, 150, 200, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Donc, c'est moins excitant en termes d'espérance de gain. Bon, par contre, forcément, là, il n'y a pas de levier, il y a moins de risques. Donc, on fait un premier résumé. Donc, toutes les caractéristiques sont là, les avantages, les risques. Moi, je lis simplement ce que j'estime être le plus important, mais vous gardez ce tableau de votre côté. Mais retenez donc, pour les contrats futurs, il y a du levier, mais la perte est en théorie illimitée. Parce que vous pouvez être débiteur en cas d'effet de slippage. Les options, la perte est limitée à la prime à payer. Moi ça me va. Je parle d'une option call. Hein, parce que là, on cherche à se couvrir, on cherche à profiter de la hausse du prix de l'énergie. Les ETF, bon, oui, bah oui. Ah, vous avez des ETF. Alors là, vous avez des exemples hein, d'émetteurs. Hein. Donc j'ai mis des émetteurs, Wisdom Tree. Vous avez tout un tas d'émetteurs ici que j'ai pris quelques exemples. Il y a plein d'émetteurs, chacun ses ETF. Ça réplique soit le Brent, soit le WTI. Et pour le gaz US, on s'en fout. Là, on regarde le gaz européen qui est le TTF. Ensuite, vous avez des ETF sectoriels. Donc, je vous ai par exemple beaucoup montré, je vous ai montré à plusieurs reprises, je vous ai montré les indices sectoriels du S&P 500. Et je vous avais notamment montré l'indice sectoriel de l'énergie, le S&P 500 énergie, qui a donné son signal d'achat en janvier. En janvier. Bah, il y a des ETF là-dessus. Ouais. Vous avez des ETF. Vous avez des ETF là-dessus. Ensuite, vous avez... Autre façon de se couvrir directement, les actions Alors, soit des compagnies pétrolières majeures avec activité intégrée, elles font tout. Elles extraient, elles produisent, elles raffinent, elles distribuent. Ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que vous pouvez gagner sur l'extraction-revente. Par contre, celles qui font les Total, les Shell, les Exxon, les Chevron, etc., qui font aussi raffinage et distribution, elles font toute la chaîne. En bout, si la demande chute, c'est ralentissement économique, elles vont souffrir en raffinage et en distribution. Donc, moi, pour moi, le meilleur levier, ce sont les producteurs indépendants, les pure players, extracteurs-revendeurs. Extracteurs-revendeurs. Eux, ils extraient, boum, ils revendent direct et au prix du marché. Donc, si le pétrole bourre, bah, eux, c'est direct. C'est direct, ding, 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 ça rentre. C'est la machine à sous. Et notamment, allez voir du côté des actions. Je vous ai parlé je vous avais parlé de Vista Energy la semaine dernière. Une entreprise comme Vista Energy, c'est du pétrole de schiste, c'est en Argentine. Voilà, il faut aller du côté des pure players, très 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 loin du Moyen-Orient, pas déconner, qui font que extraction, revente. Là, vous aurez du levier direct. Alors ensuite, vous avez les contrats CFD sur le pétrole et gaz. Alors, bah, vous connaissez le. Vous connaissez probablement les CFD, vous en faites probablement sur le marché d'échange. Alors c'est du trading de marge comme les contrats futurs, c'est plus facile à comprendre que les contrats futurs. Moi, honnêtement, je vous dis, hein, entre les CFD, c'est mon avis, hein, c'est pas l'avis de Swissquote, hein, c'est mon avis. Entre les contrats CFD, Contract for Difference, les contrats futurs et les options, je vous dis les options. C'est ce qui semble le plus dur, alors qu'en fait, quoi qu'on a compris le fonctionnement des deux grecs qui comptent, la vol, la valeur temps, l'écart au strike, et que vous avez compris que vous ne risquez que la prime, la partie gestion du risque, elle est loquée, et c'est ça qui compte. Alors ensuite, vous avez aussi des ETN, bon, voilà. Bon, concrètement, je pense que là, les contrats futurs, les options, les ETF, les actions du secteur pétrolier en se concentrant sur les pure players, extracteurs, revendeurs, on est pas mal. Alors, justement, un petit focus là-dessus. Alors, c'est vrai que lorsque vous regardez les. Voilà, alors, là, Total Energy s'est envolé. Quand j'enregistre la vidéo, hein, donc Shell, je vous montre des exemples, ExxonMobil, OK Chevron, voilà, OK très bien. Et je vous montre aussi, regardez. Vista Energy. Vista Energy, ça c'est un pure player. C'est un pure player, extracteur-revendeur. Très très loin du Moyen-Orient. Ils exploitent la pierre de schiste. Donc en plus, eux, ils font du volume et beaucoup plus de volume quand le prix du pétrole augmente parce que ça coûte cher. Donc là, c'est machine à cash et en plus, ils augmentent leur volume. C'est un exemple parmi d'autres. Moi, je vous dis, entre les majeures pétrolières et les extracteurs. Et les extracteurs indépendants, je vous dis, privilégiez dans les phases de vrai stress géopolitique, de vrai stress géopolitique, avec impact macroéconomique récessif, avec impact macroéconomique récessif, privilégiez les producteurs indépendants, extracteurs, revendeurs. Alors, pourquoi? Parce que c'est eux qui auront la sensibilité la plus forte au prix du pétrole brut, à l'évolution en temps réel du prix du pétrole sur le marché. Eux, c'est simple. Ils extraient, ils revendent. Bouh, le reste, ils s'en foutent. C'est pas eux qui vont vous vendre de l'essence à mettre dans la voiture. C'est même pas eux qui raffinent. Ils font rien. Enfin, si. Vous le cherchez. Et puis, ils le sortent, mais en brut. Donc, eux, en fait, le business model est simple. Problème des majors dites intégrés, c'est que bah, eux, ils font tout. Exploration, production, raffinage, distribution, chimie. Si une crise géopolitique finit par se traduire par un ralentissement économique, du côté de la distribution et de la chimie, ça va faire la gueule. Donc du coup, peut-être qu'on gagne de l'argent sur la production, mais on va en perdre ici. Enfin, en tout cas, ça peut s'équilibrer. Ce ne sera pas le cas avec les producteurs indépendants. Donc, au final, la vraie sensibilité au prix du pétrole, ça va être du côté donc, de ces producteurs indépendants. Je vous ai mis quelques noms ici, je vous ai donné l'exemple de Vista. Après, bien sûr, la sélection se fait à l'aide de l'analyse technique des marchés financiers. Nous continuons par des exemples d'instruments de couverture. Alors là, je donne quelques exemples. Je vous donne des tickers, quelques émetteurs. Enfin, il y en a tellement, si vous voulez, des émetteurs. Après, voilà. Pourquoi prendre l'ETF de cet émetteur? Pourquoi prendre Wisdom Tree et prendre, ou Invesco ou je ne sais pas quoi d'autre? À vous de voir, hein. Il faut voir la taille de la boîte, ce que vous faites, est-ce que l'émetteur a un risque de faillite? Voilà, mais prenez les gros émetteurs, c'est kiff-kiff, c'est concrètement kiff-kiff. Non, maintenant, il faut savoir quoi faire. Alors, pour le pétrole en Europe, c'est le Brent, donc le ticker, par exemple, du Wisdom Tree Brent Crude Oil, BRNT, voilà. Alors, pour, attention, le gaz européen, il faut bien distinguer le gaz américain du gaz européen. Dans la première partie de cette vidéo d'analyse technique, j'ai fait l'analyse technique TTF, qui est le gaz européen. Il faut bien faire attention si vous sélectionnez, par exemple, là j'ai pris un ETF. Si vous sélectionnez un ETF sur le gaz européen, faites bien attention que ce soit bien un ETF sur le TTF. Par exemple, ici, vous avez le TTFW. C'est quoi? C'est le TTF de Wisdom Tree. Wisdom Tree, c'est un émetteur. Et donc, Wisdom Tree, émetteur de produits dérivés, donc ici d'ETF, vous propose son ETF sur le contrat gaz européen qui fait référence, le TTF, et son ticker, c'est TTFW. Voilà. Là, je vous donne cet exemple. Là, vous avez encore un autre émetteur que vous connaissez, parmi les émetteurs, c'est un des plus importants, il est dans le top 3 des plus importants, peut-être même le numéro 1 des plus gros émetteurs d'ETF du monde, le iShares, je crois que c'est l'ETF S&P 500 de iShares, qui est le plus gros du monde, à vérifier, à moins que ce soit son ETF Gold, bon je sais pas, je sais plus, eux ils vous proposent un ETF sur les énergies globales, il s'appellera INRG, c'est son ticker, voilà. Bon après donc les options, donc c'est soit le CME pour le brut américain, ICE, Intercontinental Exchange pour le Brent. Alors après, bon, bah, j'ai mis des exemples de majors pétrolières et des exemples indépendants. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais là, il faut en faire laquelle sélectionner. Bon, en général, elles ont tendance à avancer ensemble. L'analyse technique peut faire la différence. J'aurais tendance, moi, si vous vous dirigez vers les majeures, à essayer d'aller chercher celles qui vont être le plus sensibles, justement, au prix du pétrole, qui vont avoir dans leur part de chiffre d'affaires, peut-être une part moindre, lié à la distribution et à la chimie et au raffinage qu'à la production extraction, qu'à l'extraction production quoi. Enfin voilà, ça c'était l'histoire de faire quelques erreurs. Alors justement maintenant, voilà, j'ai pas mis mes animations comme je voulais. Ah bah si, c'est pas ça. Alors maintenant, nous regardons un exemple complet, concret d'une option call sur le pétrole. Bien sûr, tous les prix sont fictifs, mais quoique un strike à 150$, hein, c'est concrètement, on n'est pas loin des records historiques de 2008. Alors, l'idée pour moi, c'est que, après avoir réfléchi un peu à tout ça, je me dis que dans une optique de stress géopolitique majeur, peu importe l'évolution à court terme des événements, il y en aura d'autres, des stress géopolitiques, il y a plein d'autres sujets. Donc tout ça reste valable. Je me dis qu'entre les contrats à terme, les contrats futurs donc, les CFD, les ETF, les options, il y a beaucoup plus d'upside et de gestion du risque sur les options. J'aimerais même plutôt dire qu'il y a beaucoup plus de gestion du risque et d'upside, de leverage, avec les options. Donc, l'idée, c'est une option call. Une option call, vous jouez la hausse, option put, vous jouez la baisse. Donc là, j'ai pris un sous-jacent, on va prendre le Brent. Donc, quelques paramètres, le prix du pétrole, bien sûr, est fictif, $85, strike, $150. Donc, alors, là, l'idée, le stress géopolitique, en général, on n'est pas sûr. La période de stress, c'est le début. Donc, je prends une duration de 3 mois, une maturité de 3 mois. Mon strike est à $150. Donc, je suis dans la monnaie. Je suis break-even si le prix du pétrole est au-dessus de $150 à l'échéance. Alors, au-dessus de $150 plus la prime. N'oubliez pas que quand vous achetez un call, vous payez la prime. Donc là, en gros, la prime payée est de 0,45 par baril. Ce qu'il faut savoir pour les contrats d'options, c'est qu'un contrat standard correspond à 1000 barils, un contrat mini à 500 barils et un contrat micro à 100 barils. Je prends l'exemple d'un contrat standard à 1000 barils, mais sur tous les brokers, vous avez les 500 et les 100, ça permet d'y aller petit. Mais je prends l'exemple d'un 1000. Donc, la prime payée affichée en temps réel est de $0,45 par baril. Donc, l'achat de mon option call me coûte 450. Ça, c'est ce que vous pouvez perdre au maximum. C'est confortable. Vous savez qu'au max, je perds 450. En espérance de gain, ça peut être 10 000, 20 000, 30 000. Hein. Mais au max, vous perdez 450. Ça, moi, je trouve ça rassurant avec le principe des options. Impossible à dire avec les contrats futurs. Avec les appels de marge, le slippage, etc. Donc un mois plus tard, le pétrole est à 130 dollars, en plus avant l'échéance. Donc du coup, alors vous êtes toujours en dehors de la monnaie, mais peu importe, comme vous êtes presque au strike et qu'il reste du temps. Alors, on ne fait pas un cours sur les Grecs, mais concrètement, l'écart au strike, la volatilité, la valeur temps. L'échéance est de 3 mois, et au bout d'un mois, donc il reste 2 mois, il y a encore de la valeur temps, vous êtes déjà à 130 dollars, donc très près du strike, alors qu'il reste 2 mois. Et bien, le coût de l'option sur le marché, la prime, elle est montée de 0,45 à 2 ou 3 dollars, vous avez déjà fait x5, x6, alors que vous n'êtes même pas à la monnaie. Mais imaginons, vous vous embêtez pas, vous regardez pas, vous attendez l'échéance. Vous attendez l'échéance. Donc, vous attendez l'échéance. Alors, c'est-à-dire que si c'est à 2 ou 3 dollars, vous êtes déjà à 2000, 2500 biens. Pour 450 investis, on n'est pas dégueu au pourcentage. 2500 biens pour 450 investis. Si vous avez mis 4000 de primes, je vous laisse faire le calcul. Là, on voit que c'est quand même intéressant les options. Pour la gestion du risque et pour le levier. Maintenant, vous ne pouvez pas vous embêter avec ça, vous attendez le jour d'échéance. Bon, bah, le strike est de 150, donc si le pétrole à maturité est à 150, bah, vous perdez la prime. Vous perdez la prime. S'il est à 160, vous gagnez 10 dollars par baril. Vous gagnez 10 dollars par baril. 10 dollars par baril, bon, 1000 barils, un contrat standard, 10, donc ça fait 10 000, 10 fois 1000, moins la prime, parce que vous ne la récupérez pas la prime, hein. Bah, vous avez un gain de 9550. Si le baril est à 170 dollars, un gain de 19550. Si le baril est à 200 dollars, un gain de 49550. Un gain de 49000 pour avoir investi 450. Et c'est, en pourcentage, c'est énorme. Énorme. Ça, c'est les options. Et jamais, vous n'avez été en, jamais le risque dépassait 450 dollars. Voilà, chers amis, donc ça, c'était l'exemple. Donc voilà, je pense qu'au final, conclusion de cette vidéo, la meilleure façon de se couvrir, c'est en cas d'envolée du prix du pétrole et du gaz, ce sont les options call. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.